Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Aux Premières Loges spéciale séries éliminatoires nationales de hockey. Pour l'occasion, ça va être moi, Dwayne Ibrahim, qui va être à l'animation de l'épisode. Et aujourd'hui, pour cette occasion, on va revenir sur les matchs. En fait, plusieurs premiers matchs des différentes séries. Là, on va revenir sur les matchs de tout le week-end, donc ceux de samedi et dimanche, 2 le samedi, 4 le dimanche. Et pour l'occasion, on est 4. Je suis accompagné d'Olivier Prince-Grelot, Grégory Hamel et Vincent Poirier. Les boys, comment allez-vous?
Très bien. Très content que les séries se soient enfin amorcées. On a eu à la fois des matchs excitants et d'autres moins, mais c'est ça qui est ça.
Non, tu as tout à fait raison, Oli. Puis tu sais, moi, surtout, qu'est-ce que j'avais hâte de voir, c'était le dernier match, c'était de voir les Canucks de Vancouver en séries éliminatoires. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas vus. En fait, la dernière fois que les Canucks ont joué en séries éliminatoires, c'était en 2020, mais tu sais, c'était un contexte exceptionnel avec la COVID. Mais à part de ça, la dernière fois que les Canucks ont joué dans un stade plein à Vancouver, c'était en 2015. Donc, ça fait presque 10 ans. Là, ça fait du bien de voir les Canucks. Mais ça, on va revenir là-dessus parce que c'était le dernier match. Là, on va parler... on va commencer tout de suite, on va parler des deux matchs qui ont eu lieu samedi, deux affrontements dans l'association de l'Est. On va commencer avec la première dans la métropolitaine, celle entre les Hurricanes de Caroline et les Islanders de New York, deux équipes qui s'étaient affrontées la saison passée dans une série où que les Hurricanes avaient battu les Islanders en 6 matchs, une série que pour moi personnellement, j'annonçais comme une série pour moi, la celle la moins excitante de toutes les confrontations de première ronde. Mais malgré cela, ça a quand même été un match assez intéressant. Victoire de 3-1 de Hurricanes de Caroline avec Evgeny Kuznetsov qui a marqué le premier but du match. Aussi, Cal McLean qui a marqué le seul but des Islanders de cette rencontre-là. Stéphane Nelson qui a marqué le but de la victoire. Et aussi Martin Nechas qui a marqué le but d'assurance pour Hurricanes de Caroline dans un filet désert. Je vais commencer avec toi, Greg. Comment tu as pensé de cette performance de Hurricanes de Caroline? Les Hurricanes de Caroline partaient quand même favori, mais les Islanders a vraiment fait toute une performance.
Ouais, je pense que les Hurricanes, encore une fois, ils viennent en série avec un peu l'étiquette de... ils font définitivement partie des favoris dans l'Est. Puis là, ils ont la chance en tant que tel de se prendre contre une des équipes qui sont... ils ont fini troisième dans la métropolitaine, les Islanders, mais c'est quand même pas une équipe de tête. Là. Tu vois, dans les 8 équipes qui sont qualifiées dans l'Est, il y en a peut-être 6 vraiment contre qui tu veux pas vraiment te prendre en première ronde. Puis les Islanders font un peu partie de ce deuxième groupe-là. Ils font un peu moins peur. Leur force d'attaque, je parle juste en général, leur force d'attaque, etc. Mais je trouve que quand même, les Islanders, c'est quand même pas une équipe que tu dois prendre à la légère. Premièrement, les gardiens de but, c'est un des meilleurs tandems dans la ligue. Leurs deux gardiens de but sont en mesure de sauver des matchs, de voler des matchs. On pourra en reparler de Varlamov justement. Ça m'a un peu surpris. J'étais pas au courant de ses performances récemment. Je m'attendais à voir Sorokin. Ça, c'est ma faute parce que j'écoute pas les matchs des Islanders parce que ça.
Plusieurs depuis qu'il y a Patrick Roy, mais je suis d'accord avec toi, la Islanders, pour moi, c'est une des équipes les plus ennuyantes de la LNH, mais c'est vrai.
Ça change pas avec l'entraîneur. On dirait que c'est juste la façon que leur équipe est construite. Il y a des Barzal, etc., là, mais c'est une équipe qui construise pour jouer du hockey un peu plus plate, un peu plus la trappe. Nécessairement, même sans jouer la trappe, c'est une équipe qui génère pas tant que ça, qui n'a pas des chances à tous les minutes là, tu sais, mais je pense que justement c'est un style de jeu qui pourrait fonctionner en série justement avec à quel point leur système est bon défensivement. Je trouve que ils ont quand même des bons joueurs défensifs, etc. Tu sais, on peut gagner des matchs du côté des Islanders à bas pointage. Justement, j'ai mentionné les gardiens, mais tu sais, les Hurricanes, je n'étais pas tant surpris non plus de les voir remporter ce premier match-là à la maison.
Mm-hmm. Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Frederik Andersen qui a été clairement la vedette du côté des Hurricanes de Caroline dans ce premier match?
Ben oui, 33 arrêts pour Andersen dans un match où il devait être capable de soulever son équipe. On le sait, il a été blessé longtemps cette saison, Frederick Anderson. Ça fait du bien de le voir en santé finalement. Puis je pense qu'il a été l'élément le plus important, lui et Kuznetsov, dans la victoire de cette équipe-là. J'ai l'impression que sans Frederick Anderson, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile du côté des Hurricanes de sortir victorieux de cet affrontement-là, parce que j'ai quand même trouvé les Islanders très surprenants. Je veux pas vous mentir. Un peu comme tu disais, Greg, c'est une équipe, on le sait, ils ont un style de jeu, ça fait des années qu'ils jouent pareil, mais ils sont capables de jouer les troubles faits à certains moments dans les séries éliminatoires. Puis, même si on voit les Hurricanes comme grands favoris dans cette série-là, j'ai l'impression quand même que les Islanders ont peut-être leur carte à jouer, mais Frederick Anderson a été excellent dans la partie.
Mmh. Ali, pour toi, est-ce que tu étais quand même rassuré de la performance des Hurricanes en général, ou comme Vincent a mentionné, t'étais plus un peu surpris de la performance des Islanders sur cette rencontre-là?
Ouais, ben du côté des Hurricanes, je pense que je m'attendais à peu près à ça, là, à ce niveau d'énergie-là. On a vu des Hurricanes entreprenants, intenses sur l'échec avant, le style de Rob Brind'Amour comme on les connaît. J'ai été surpris effectivement des Islanders là, qui ont déployé plus de résistance qu'on s'y attendait, je pense. Mais ouais, moi je veux revenir sur Evgeny Kuznetsov, on en a parlé. Oui, Frederick Anderson a été exceptionnel, mais Evgeny Kuznetsov, plusieurs parlaient d'un gros risque là, à la date limite des transactions d'aller chercher. Mais on le sait, avec les Capitals, c'est un joueur qui peut performer en série. Et là, il commence très bien, marque le premier but de cette édition des séries éliminatoires 2024 dans la Ligue nationale. Et tout un but quand même, là, direct dans la lucarne, juste par-dessus l'épaule de Varlamov, tout un tir et la célébration qui vient avec la célèbre. Donc, il a ajouté une passe également, un but, une passe. Donc, très grand match pour lui hier. Il montre son utilité puis il montre que, ben, pour le moment, ça a valu la peine là, des Hurricanes d'aller le chercher. Fait que, grosse mention à Kuznetsov également.
C'est une aubaine du côté des Hurricanes là, d'avoir été capable d'aller chercher Kuznetsov comme ça à la date limite des transactions. Tu sais, ils l'ont eu pour des pinottes, là. Fait que, du côté, je pense que si je suis l'organisation des Hurricanes, je me considère vraiment chanceux d'avoir ce gars-là qui a de l'expérience. On le sait, il a gagné une Coupe Stanley avec les Capitals. C'est le genre de gars que tu as besoin dans les séries éliminatoires, puis ça fait du bien pour les Hurricanes qui produisent la sorte.
Mm-hmm. Tout à fait.
Ouais, tout à fait. Non, c'est 100% vrai que vous avez dit, les gars. Puis en plus, ce qui est peut-être une bonne nouvelle du côté des Hurricanes de Caroline, c'est que pour l'instant, ce n'est pas les gros canons qui ont été obligés de marquer les buts importants du côté des Hurricanes. Encore une fois, aucun point pour Sébastien Nao, pour Jake Gensel, pour Teuvo Vernon, c'est Jarvis Higgins, c'est absolument extraordinaire. Donc, puis aussi André Svechnikov. Donc, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour ces attaquants-là. T'es, le top 6 des Hurricanes était un peu tranquille lors de ce premier match. Peut-être qu'ils pourront avoir des meilleures performances lors des prochains matchs. Mais dans l'ensemble, c'était un match, comme vous l'avez mentionné, c'était un match où on s'attendait à peu près au même style des Hurricanes, même aussi du côté des Islanders de New York. Puis, je ne sais pas pour vous les gars, mais moi, je m'attends vraiment à une série qui risque de se rendre presque à la limite. Là. J'avais pris les Hurricanes en 6 matchs pour remporter cette série-là comme l'année passée, mais c'est une série qui peut facilement se rendre à la limite, surtout si les Islanders continuent à jouer de la sorte, puis que peut-être qu'à Varlamov, à la surprise générale, peut voler un match ou deux. Puis en parlant de Varlamov, c'est vrai, je ne vais pas poser la question, les gars, mais Ilya Sorokin, le gars était vu comme le gardien de but numéro 1 de cette équipe-là. C'est un gars qui a signé un contrat à long terme avec les Islanders, pas plus tard que l'année passée. Puis, t'as une légende comme Patrick Roy qui arrive du côté des Islanders de New York, qui décide de faire confiance à Simon Varlamov, alors que les Islanders ont quand même bien terminé la saison. Là, je pense qu'ils ont une fiche de 8 victoires et une défaite en prolongation lors de 9 derniers matchs réguliers. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne décision ou peut-être que Sorokin était le gars de la situation pour les Islanders de New York? Je pense que je vais commencer avec toi, Greg, pour cette question-là.
Écoute, je pense que c'est tout le temps une bonne décision d'aller avec le gardien qui fait bien récemment, qui rentre en série avec de la confiance. Je pense que la confiance, surtout pour les gardiens, c'est vital, c'est crucial pour un gardien d'entrer en série avec confiance. Puis tu fais jouer le gardien qui te fait gagner. Varlamov a été vraiment excellent au cours des dernières semaines. Ça l'a permis justement aux Islanders de pouvoir se qualifier en série puis d'avoir ce troisième, se classer troisième dans la métropolitaine. Puis en même temps, Patrick Roy justement a déjà été l'entraîneur de Varlamov aussi au Colorado. Mais j'ai pas de doute que s'ils ont besoin d'un petit switch dans la série, un mouvement de momentum. T'sais, ils vont pas avoir peur de retourner à Sorokin parce que c'est quand même une des têtes d'affiche là, du club.
Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, Varlamov a quand même roulé sa bosse dans la Ligue nationale. De mémoire, je ne sais pas à combien de saisons il y a, mais c'est un gardien d'expérience qu'on le sait ce qu'il va être capable d'apporter à une équipe. Alors que du côté de Sorokin, je le sens un petit peu plus fébrile à certains moments. J'ai l'impression que il y a une certaine naïveté dans son jeu qui fait que il peut être des fois chancelant sur certains tirs des adversaires. T'sais. On va pas commencer à le comparer à un autre gardien qu'on va parler plus tard, mais j'ai l'impression que des fois, Sorokin est un peu chancelant dans certaines de ses performances. Puis je pense que c'est bien d'avoir un gardien en confiance dès le début, mais je pense qu'en même temps, il risque d'avoir certains ajustements au fur et à mesure de la série. Là. Je peux pas croire que tu peux asseoir un gardien comme Ilya Sorokin pendant le restant de tes séries.
Techniquement, il n'était pas assis. Là.
Ouais.
Vous savez, lui, il était debout toute la game, mais Caroline ne l'aura pas fourni de chaise, en tout cas, ça n'a aucun rapport, mais du même coup, tu sais, je veux dire, c'est rare qu'on voit autant de séries d'équipes qui rentrent en série, puis on sait pas, tu sais, le gardien qui commence match numéro 1, on sait pas si c'est lui qui va finir la série non plus. Là. C'est mm-hmm. quasiment dans la moitié des équipes, c'est le cas. Puis c'est quand même, ça va être quand même intéressant de voir, comme ça en dit, tu sais, c'est qui va prendre le relais, qui va finir la série pour les Islanders.
Mm-hmm. Olivier, voulais-tu rajouter quelque chose par rapport à cette situation-là? Ou?
Non, honnêtement, je pense que les gars ont tous dit, là, je suis d'accord avec ce que Greg a dit auparavant, là, que Patrick Roy a bien fait de commencer avec son gardien qui était dans la meilleure forme à ce moment-là, et donc c'était Varlamov.
Mm. Bon, ben écoutez les gars, le prochain match d'Islander, ça va être lundi soir. Mm-hmm. Encore une fois, match numéro 2 du côté de Raleigh en Caroline du Nord, donc ça risque d'être intéressant pour cette série-là. Maintenant, on va se déplacer du côté de Boston. Où que la fameuse série entre les Maple Leafs et les Bruins commençait du côté du TD Garden. Bon, victoire sans équivoque des Bruins de Boston 5-1. Je l'ai dit de façon un peu drôle parce que t'es, bon, on sait, Montréal, Boston et Toronto, ça fait pas partie des clubs les plus aimés par la population québécoise. Et pour l'occasion, ben, Boston s'en est sorti de brillante façon en l'emportant 5-1. Je ne vais pas revenir sur les buteurs parce que je pense qu'on va manquer un peu de temps, mais je vais commencer avec toi, Oli, pour ce match-là. Es-tu déjà inquiet des Maple Leafs de Toronto? Parce que on va s'attendre pour dire que c'est pas vraiment les Bruins de Boston qui ont été si dominants que ça, c'est plus Toronto qui a échappé cette rencontre-là pour plusieurs raisons.
Ben, est-ce que je suis inquiet des Maple Leafs de Toronto d'où? On est toujours inquiet des Maple Leafs de Toronto, c'est les Maple Leafs de Toronto. En série, on connaît bien surtout contre les Bruins, cette fameuse historique contre les Bruins. Donc, certainement que si je suis un fan des Leafs, je suis extrêmement inquiet. Surtout le match d'hier, on n'a pas été capable de percer la muraille Swayman. C'est lui qui a remporté la première étoile, une trentaine d'arrêts, je ne sais pas exactement le nombre, mais a été très solide. Encore une fois, ben, Nylander était blessé. On sait que c'est parmi les. Le noyau de joueurs offensifs des Leafs, c'est lui qui est le plus performant en série, là, si on se base sur les dernières années. Et encore une fois, Matthews a peut-être eu une chance, n'a pas fait grand-chose. Marner, j'ai pas écouté tout le match non plus, mais n'a pas été là bien souvent. Écoute, c'est un. Ben, pour ce qui est du match numéro 1, c'est un scénario qui semble se répéter. Donc, clairement qu'on est inquiet. Puis du côté des Bruins, ben. Ils vont pas arrêter de me surprendre parce qu'après le départ, après une saison que personne s'attendait l'an passé à battre un record, cette année, ils perdent Bergeron, ils perdent Krejci, mais ils sont de retour dans les sommets du classement. Moi, Boston, je les pensais là, être sur la pente descendante. Eh bien, force de constater qu'ils surprennent encore. Puis des joueurs comme Trent Frederick, comme Brandon Carlo, comme Jake DeBrusk, qui ne sont pas nécessairement des gros noms dans la Ligue nationale, mais qui sont capables de jouer du hockey de série, qui sont capables de se démarquer puis d'amener cette formation de Boston à un autre niveau. Je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Jim Montgomery pour ça, l'excellent entraîneur-chef montréalais en plus. Donc voilà, Boston qui surprend, puis oui, Toronto qui inquiète.
Vince, Oli a mentionné, Austin Matthews était quand même assez tranquille à cette formation-là. Le gars a quand même marqué 69 buts cette saison. Est-ce que tu t'attends à ce que Austin se réveille dans cette série-là, ou tu as l'impression que sa série va ressembler un peu au match numéro 1?
Ben, c'est sûr, si j'étais un partisan des Maple Leafs, j'aimerais ça. J'aurais besoin que Austin Matthews se réveille, parce que on connaît la saison d'Austin Matthews. Là. On ne va pas commencer à revenir. Je pense qu'on en a parlé tout au long de la saison. Mais les Maple Leafs ne doivent pas être que Austin Matthews. Ça a été ça le problème. J'ai l'impression, dans la première partie, on a eu Mitch Marner qui a été complètement fantomatique dans ce match-là. Je m'excuse, mais il était absent. Il a joué 26 minutes. J'ai eu l'impression qu'il a été assis sur le banc tout le long du match. Il manque quelque chose, j'ai l'impression, du côté des Maple Leafs. À chaque année, on le répète. À chaque année, on se dit que il va peut-être avoir quelque chose de nouveau. John Tavares aussi, fantomatique. C'est quoi qui pourrait être l'élément déclencheur pour cette équipe-là. Parce qu'on l'a vu hier, c'était des joueurs qui semblaient être à fleur de peau, comme plusieurs punitions quand même assez stupides. Je pense notamment à Max Domi, qui, en fin de deuxième période, a complètement perdu les nerfs et a scellé un coup de bâton à Brad Marchand. J'ai l'impression que c'est le genre d'élément dans une partie qui démontre à quel point cette équipe-là n'est pas prête à passer à un niveau supérieur. Puis je ne sais pas ce que Sheldon Keefe peut faire afin d'améliorer justement cette mentalité-là du côté des Maple Leafs.
Ouais.
En parlant de mentalité, je vais aller avec un cliché vraiment. Là. Je pense que c'est juste un exemple d'une équipe avec une culture vraiment gagnante contre une équipe qui est juste habituée de perdre, puis qui est juste qui accepte maintenant, année après année, de perdre parce qu'ils connaissent rien d'autre. T'sais, on a parlé des pertes des Bruins. Tu regardes à l'attaque, il y a Pasternak, il y a Marchand qui sont des gros noms. Après ça, là, si tu ne suis pas le hockey de près, il y a beaucoup de noms que tu vas dire. Man, c'est qui ce joueur-là?
John Beecher, man.
Mais c'est quand même un choix de première ronde. Mais si tu ne suis pas ça, honnêtement, genre il y a énormément de joueurs juste dans leur top 6. C'est qui ces joueurs-là? T'sais? Mais je suis pas mal sûr que tu pourrais enlever Marchand, tu pourrais enlever un de ces deux joueurs-là de tête d'affiche que j'ai mentionné en passionnant avec Marchand, puis ils continueraient d'être performants parce qu'ils sont juste habitués d'être gagnants, ils ont une culture gagnante. Puis au-delà de ça, c'est sûr, ils marquent des buts d'une façon ou d'une autre, malgré le fait qu'il n'y a pas de... Ben, tu sais, il y a passionnant qui est Marchand, mais il n'y a pas de vraiment de top 6 qui devrait être dominant sur papier. Mais au-delà de ça, il y a les défenseurs qui se joignent à l'attaque constamment. Des gars comme McAvoy, des gars comme Grizzlick, etc. Carlo, hier, qui a marqué, je ne suis pas sûr qu'il est d'habitude de marquer des buts, ce gars-là, mais c'est tout le monde qui met la main à la porte. Puis, écoute, il y a Swayman aussi qui a été miraculeux hier. Puis, tu sais, on parle beaucoup de Samsonov, blablabla. Oui, sur papier, ça paraît pas bien, mais tu sais, il n'y a pas juste lui. Là. Les buts qu'il a alloués, oui, tu as besoin d'un arrêt de temps à autre, etc. Mais tu as aussi besoin de marquer des buts. Tu peux pas gagner une série quand David Kempf, puis ton, je sais pas trop, c'est Connor Dewar et Ryan Reeves qui ont été tes pointeurs dans la partie numéro 1. Il faut que tes gros canons y répondent. Puis, tu sais, les gars comme Austin Matthews, qu'on a mentionné, Mitch Marner, John Tavares, William Nylander, s'ils jouent, je sais pas trop, tu sais, s'il est blessé ou quoi que ce soit, mais ils pourront pas juste être moyens. Il va falloir qu'ils gagnent cette série-là parce que Toronto n'a pas le luxe comme Boston d'avoir cette culture-là qui vont faire que leurs joueurs de profondeur vont pouvoir leur voler la série.
Mais tu es aussi du côté de Toronto, puis tu parlais tout à l'heure, Greg, de de la manière que l'équipe des Islanders est construite, là, moi, je trouve que celle de Toronto depuis le début, c'est juste une équipe qui est mal construite. Là. La défense, je suis désolé, là, mais tu peux avoir tout le talent du monde à l'attaque, mais là, c'est une défense comme celle de Toronto, tu ne peux pas en sortir. Là. Malheureusement, on a vu hier là, la différence entre la défense des Bruins avec celle des Leafs, ou que c'est une défense des Leafs qui est ultra lente là, par moment. Là. J'avais bien aimé Joel Edmondson à Montréal il y a 3 ans quand le Canadien s'était rendu en finale cette année, mais là, en ce moment, il est là. T'as un McKay, qui joue sur le top 4. T'as des joueurs qui, normalement, t'aimaient dans une équipe prétendante à la Coupe Stanley. Ils sont probablement pas dans l'alignement là, pour une grosse partie. Donc, c'est ça aussi là, le problème. Il y a beaucoup trop de trous du côté des Maple Leafs. Puis, on parlait de l'absence de Nylander. Nylander, c'est un des rares qui performe bien en séries éliminatoires. Puis, le fait qu'il soit pas là, le fait qu'il était pas là samedi soir, puis que Toronto a eu autant de difficultés contre les Bruins, je sais pas, je trouve ça assez inquiétant. Mais il faut savoir aussi du côté de Toronto que je pense que depuis qu'ils ont recommencé à faire les séries en 2016-2017, ils ont perdu presque tout leur premier match. Je pense que juste 2022, je pense qu'ils ont gagné leur premier match. Mais à part de ça, toujours perdu le premier match. Donc, ça se peut que Toronto se réveille au match numéro 2 puis qu'ils s'en sortent bien. Moi, j'avais pris de toute façon Boston pour gagner cette série-là en 7 matchs, comme ça a été le cas en 2017, en 2018. Je pense que ce n'est pas terminé du tout. Puis, écoute, si Toronto s'écroule contre les Bruins, c'est clair qu'il va y avoir un changement majeur du côté des Maple Leafs, que ce soit le départ de Sheldon Keefe, peut-être même le départ de Brendan Shanahan aussi, du côté de la direction. Peut-être échanger un des quatre là, à l'attaque. Ça risque d'être compliqué. Je vois ta réaction, Greg. Ça risque d'être compliqué. T'as Tavares qui est sur contrat, est impossible de bouger. T'as Nylander qui vient de signer une progression de contrat. Puis après ça, c'est dur.
C'est Marner. S'il y a quelqu'un, c'est Marner, mais j'ai vraiment de la misère à dire. Je pense qu'il y a beaucoup de fans des Maple Leafs qui aimeraient ça ou qui veulent un gros changement. Mais comme tu as mentionné, si le gros changement, ça va venir selon moi derrière le banc ou Brendan Shanahan, je pense pas. Peut-être, là, mais je serais surpris de voir qu'on bouge du gros top 4.
Ouais, puis si les Maple Leafs veulent échanger Mitch Marner, il faut essayer de convaincre une équipe prétendante probablement à la Coupe Stanley que ce gars-là peut apporter quelque chose à sa nouvelle équipe, chose que depuis plusieurs années en séries éliminatoires, il convainc pas.
Puis, ouais, puis c'est pas juste ça, il faut aussi que tu obtiennes un joueur qui est capable, qui est sur le marché des transactions, que son équipe va être prête à se départir, puis qui va être en mesure de t'amener beaucoup de valeur aussi. Tu
peux pas juste échanger Marner. Avec la masse salariale.
Ouais, puis tu peux pas juste échanger Marner pour un choix, parce que tu sais, c'est le temps de gagner maintenant à Toronto. T'es changé Marner pour un choix, ça t'amène pas beaucoup plus loin, tu fais juste perdre Marner. Oui, ça va t'ouvrir du cap maintenant que j'y pense, là, mais il faut quand même que c'est leur temps de gagner maintenant. Fait que je pense que échanger Marner, ça va être très compliqué d'améliorer son équipe à court terme en faisant ça.
Ouais. C'est sûr. Puis en même temps aussi, la question c'est est-ce que tu vas être capable de trouver un joueur qui a peut-être une valeur similaire à Mitch Marner, parce que Mitch Marner, on peut bien le critiquer, mais ça reste quand même que c'est un joueur élite de l'initiale de hockey. Là. C'est un gars qui est capable de presque tout faire sur une patinoire, là, presque. Donc, trouver un joueur dans un échange qui a à peu près un talent, ou en tout cas qui a une efficacité similaire à celle de Marner, je pense que ça va être ultra difficile. Mais bref, la série est loin de terminer, là, c'est seulement un match, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant de voir Boston. Autant se défaire facilement des Leafs. Ça ressemble un peu à la saison régulière. Là, Boston a 4 victoires, 4 matchs contre Toronto. C'était vraiment des victoires assez équivoques en plus des Bruins dans leur confrontation cette saison contre les Leafs. Donc, ça risque d'être intéressant à la suite des choses, mais pour l'instant, ça sera peut-être ardu pour les Maple Leafs de Toronto. Maintenant, on va aller analyser les 4 matchs qui ont eu lieu dimanche. Évidemment, 2 matchs dans l'Est et 2 matchs dans l'Ouest. On va commencer avec la bataille de Floride entre les Panthers et le Lightning de Tampa Bay. un match quand même très intéressant, une série que moi j'attendais personnellement. Je trouvais que sur le papier, c'était peut-être la série la plus excitante dans l'Est. Et pour moi, personnellement, je n'ai pas été déçu dans cette rencontre-là. T'as Sam Reinhart, encore une fois, deuxième an plus tard dans l'histoire d'hockey, qui a marqué le premier but de cette série-là. Par la suite, Brandon Nagel qui a créé l'égalité 1-1. Carter Verhaeghe qui a marqué le but de la victoire au début de la troisième période en avantage numérique. Et Matthew Tkachuk qui a marqué le fait des arts. Et par la suite, Steven Stamkos qui a réduit l'écart à un but avec 7-10 secondes à faire à cette rencontre-là. Je vais commencer avec toi, Vincent. Vincent, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là de façon globale?
Ben, tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ces deux équipes-là s'affronter. On peut observer qu'une continuité d'une rivalité floridienne depuis plusieurs années. Encore une fois, du côté des Panthers, on se base sur notre noyau fort, qui est principalement notre premier trio. Tu sais, Reinhart, Barkov, Verhaeghe, Tkachuk, c'est les gros joueurs qui ont été capables de produire aujourd'hui des gros points. J'ai beaucoup aimé du côté du Lightning leur échec avant. J'ai trouvé qu'ils ont quand même été capables d'aller chercher des rondelles importantes en échec avant, puis dans le fond de la zone en offensive. Il va peut-être falloir qu'ils exploitent un petit peu plus ça. Il y a eu beaucoup de physicalité dans l'affrontement. Tu sais, je regarde la feuille de stats présentement. 55 mises en échec pour le Lightning, 54 pour les Panthers. Tu sais, je pense que ça démontre à quel point c'est un match intense. Puis ça risque d'être une série intense qui va continuer tout le long. Là, j'en ai aucun doute. Puis je pense que c'est ça qui est beau avec cette série-là. C'est qu'on le sait que Il y a une rivalité qui est forte entre ces deux équipes-là, ces deux équipes qui ne s'aiment pas. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est les petits détails qui vont faire en sorte qu'une équipe va être capable de prendre l'avantage sur l'autre. Puis c'est ça qu'on a vu aujourd'hui, tu sais, Verhaeghe, c'est en avantage numérique, qui marque son but en début de troisième période. Steven Stamkos, c'était à la fin du match, puis on peut dire que c'était un but peut-être plus pour la forme que d'autres choses, mais ça reste encore aussi un avantage numérique. C'est des petits détails comme ça qui font en sorte que justement c'est une équipe ou l'autre qui va être capable de prendre l'avantage sur les affrontements. Mm-hmm.
Greg, qu'est-ce que tu en penses encore de la performance de Matthew Tkachuk qui l'année passée, il a eu des séries absolument extraordinaires et encore une fois, a été excellent dans cette rencontre-là. Là. C'est un but, une passe pour Matthew Tkachuk. Qu'est-ce qu'on a pensé en général de sa performance dans le premier match?
Mais écoute, je pense que c'est un joueur qui est taillé sur mesure pour les séries. Ça, on l'a dit encore et encore. Techniquement, il y a le but gagnant en filet désert. Là. Ouais. Je pense que c'était pas nécessairement la partie, malgré ces deux points, où est-ce que je pense qu'on va le voir encore plus quand les parties vont être c'est plus physique, plus quand ça va vraiment jouer dans les coins, quand ça va vraiment se parler après le sifflet, etc. Je pense que c'est dans ces parties-là qu'il va carburer le plus. Mais c'est sûr, c'est un joueur en série que tu ne veux pas affronter, puis que tu sais, après 4-5 parties, là, tu commences à être fatigué de l'avoir en face, c'est sûr.
Mm-hmm. Ali, quand on regarde le match, quand même, ça a pris pendant les 16 premières minutes, je crois que Tampa Bay n'a aucun tir au but jusqu'au but de Brandon Nagel qui a permis au Lightning de revenir dans cette rencontre-là. Comment tu as trouvé la performance du Lightning en général? Est-ce que tu trouves que le Lightning est passé à côté de son match ou tu trouves quand même que Il y a eu des points positifs dans la rencontre?
Ben, je pense pas que le Lightning ait passé à côté de son match. Comme Vince l'a dit tantôt, on a vu des choses en échec avant qui étaient assez intéressantes du côté du Lightning. Je pense à un Michael Essiemon quand même qui donne son 100% à chaque présence. Lui, même s'il n'est pas un gros joueur, il peut aller de gagner être agressif, être avec acharnement sur les défenseurs adverses, de gagner des rondelles. Un gars que je suis déçu, même pas 10 minutes de temps de jeu du côté du Lightning, c'est Tanner Janot qui doit se démarquer par sa robustesse. On est allé chercher pour ça. Décevant depuis qu'il est arrivé du côté du Lightning. Avec Nashville, il y avait une certaine dimension offensive. À son jeu aussi, production, c'est sûr qu'il n'a pas le même rôle à Tampa Bay, mais quand même, un joueur qui me déçoit quand même. Et si on veut avoir cette efficacité-là de la part du bottom six, si vous me permettez l'expression, du côté du Lightning, qu'on avait avec des Gourde, des Coleman, des Gaudreau à l'époque où on a gagné nos Coupes Stanley, ça prend des gars comme Janot, ça prend des gars comme Essamond qui font le travail. Ce que je doute qui est aussi performant, là, ce bottom six du côté du Lightning. Tu regardes du côté des Panthers, oui, ça nous, de ce côté-là aussi, ça va être, comme Vince l'a dit, les Kachuk, les Barkov, les Reinhardt, les Verhaeghe qui vont faire les points. Mais tu as quand même des Lomberg, des Nick Cousins, des Lundell, des Lou Ostarinen qui ont été très bons l'an dernier en série, qui l'ont encore été dans ce match numéro 1 de ce que j'ai vu du match. Donc, je pense que niveau bottom six, l'avantage est du côté des Panthers. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Le Lightning va devoir améliorer ça, je pense, pour le reste de la série. Parce qu'on sait que les deux premiers trios vont marquer des deux côtés. On a parlé de Reinhardt, mais Barkov ou du côté des Panthers, quel match de la part de Barkov. Je pense que c'est deux passes, mais c'est aussi de l'implication physique et défensive. Il y a un jeu où est-ce qu'il soutire la rondelle à Kucherov là, en zone neutre. Et ça a donné une chance de marquer directement à Reinhardt. Puis tu regardes Kucherov après qui ne fait pas vraiment d'efforts pour rattraper son erreur. C'est peut-être là que ça va jouer sur les petites différences. Parce que Barkov, on en parle, c'est un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue. Et non seulement il est habile offensivement, mais des petits jeux comme ça défensifs qui ne sont pas remarqués par tout le monde, c'est ça qui peut faire gagner une série également du côté des Panthers. Donc, pour venir à ta question initiale, non, le Lightning n'est pas passé à côté de sa performance, ce n'était pas dégueulasse, mais il y a des choses à améliorer certainement pour venir à bout des Panthers qui vont être très difficiles à battre là, dans cette série.
Moi, j'aimerais surtout revenir sur le fait que Tanner Janot, il y a un an, a été échangé contre 5 shots de repêchage.
C'était un repêchage complet. C'était un 2, un 3, un 4, un 5.
Ouais, un aussi. Il y a un 2, un 3, un 4, un
5. C'est ça. Ce qui apporte, c'est vraiment pas ça.
C'est 10 minutes. 10 minutes par game.
C'est ça. 10 minutes par game, 3 mises en échec. Invisible.
Ça serait le moment parce que je me dirais, ouais, Tanner Janot va vraiment sortir dans un match de série contre la Floride. Ça n'a pas vraiment été le cas. Il reste encore jusqu'à 6 matchs au maximum. Donc, on va lui laisser le temps, mais ça fait déjà un an qu'il est là puis il déçoit. T'sais, on lui a donné la chance d'avoir un rôle plus grand puis il a pas pris cette chance-là. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce rôle-là. Mais là, ça serait vraiment le temps qu'il amène un peu plus à son équipe.
Ce qui est un peu incompréhensible dans le cas de Tyler Janot, c'est pas ce qu'il nous avait habitué par le passé. Fait que je comprends pas vraiment pourquoi il y a eu ce changement-là du moment où il est arrivé avec le Lightning, parce que c'est vraiment pas le même joueur. Peut-être qu'il y a eu un petit peu trop de pression justement avec le prix que le Lightning ont payé pour l'avoir. Mm-hmm. Mais encore là, tu sais, Tyler Janot, c'est pas un mauvais joueur de hockey, il l'a prouvé par le passé, puis il a besoin d'un déclic. Je sais pas s'il est mal encadré, je sais pas si il sent pas sa place dans le club, mais c'est pas avec des performances comme il a montré aujourd'hui que ça va améliorer son cas, en tout cas.
C'est 24 buts, 17 passes avec Nashville en 2021-22. Là, on ne voit pas du tout ça du côté du Lightning. Et en plus, on n'a pas l'implication physique qu'on aurait voulu. Donc, ouais, vraiment, vraiment décevant.
Ouais, ben écoute, en même temps, peut-être tu sais que c'est le fait que peut-être que cette saison à Nashville, c'est juste un flou là, aussi. Là. Excuse-moi l'expression, là, mais il faut s'apparer aussi. Là, c'était sa saison recrue. Ouais. Donc, peut-être qu'on a peut-être vu le pic de Tanner Janot à ce moment-là. Là. Puis aussi, ben, écoute, il y a quand même une différence de vitesse entre les Predators et le Lightning. Là. Donc, ça peut peut-être expliquer pourquoi Tanner Janot a été un peu de difficulté avec le Lightning. Mais regarde, qu'est-ce que vous voulez? C'est, malheureusement, il y en a des déceptions. Moi, c'est encore une fois, c'est pas tant sa production qui me déçoit, c'est surtout le fait qu'ils ont quand même échangé 5 choix. Et Carl Futsi, un joueur aussi à mentionner, qui a été échangé pour Tanner Janot. Donc, c'est quand même assez particulier comme décision de la part de Julien Brisebois d'avoir décidé de donner autant pour un joueur qui joue 10 minutes par match. Donc, voilà.
Je pense pas qu'il regrette d'avoir donné Cam Foot, par exemple.
Ouais, je pense que Cam Foot, c'est pas le...
Je pense pas qu'il regrette d'avoir...
Ah, j'avais oublié. Tyler, oh non. Cam Foot, j'avoue que c'est pas une mauvaise décision, mais ça reste quand même 5 choix. Ça, 5 choix, c'est pas... c'est pas exceptionnel. Anyway, allons dans une série qui s'annonce, si on regarde le premier match, s'annonce à être quand même assez active. Premier match de série entre les Rangers et les Capitals de Washington du côté du Madison Square Garden à New York. Victoire assez simple pour les Rangers de New York, 4-1. C'est la surprise générale, c'est Matt Rempe qui a marqué le premier but de cette série-là. Au début de la deuxième période. En passant, les Rangers ont marqué 2-3 buts en l'espace de 2 minutes là, pour reprendre une avance de 3-0 en début de deuxième période. Et par la suite, Martin Ferrari a marqué pour faire peut-être donner un petit regain de vie aux Capitals de Washington. Et Chris Kreider a marqué avec moins de 5 minutes à faire pour les Rangers pour donner confirmer la victoire des Rangers 4-1. Je vais commencer avec toi, Greg. Est-ce que tu as l'impression que cette série-là peut se rendre jusqu'à au moins 5 matchs?
Honnêtement, oui. Oui, je pense pas. Je pense que les Rangers vont définitivement... J'avais dit ça des Bruins l'an passé, mais je pense que les Rangers ont quand même écrasé leur adversaire. Par contre, tu regardes aujourd'hui, je pense que les Capitals étaient coude à coude avec les Rangers pendant 57 minutes. T'sais, tu parles de... C'était un mauvais 3 minutes où est-ce qu'ils ont alloué 3 buts. Ça les a complètement sortis de la partie. Il n'y avait pas vraiment de chance de revenir de l'arrière, surtout quand tu es contre un gars comme Igor Shesterkin qui est en pleine confiance. Fait que tu sais, c'est un manque d'attention pendant ces 3 minutes-là. Mais tu sais, ça commence à 0-0 prochaine partie. Puis pour les autres parties après ça, ensuite aussi, je pense qu'ils vont définitivement être en mesure de sauver avec une ou deux victoires. Mais 4, je suis pas vraiment confiant, non.
Vincent, toi, t'as l'air plus confiant par contre.
Ouais, je pense que tout va dépendre de à quel point Ovechkin va être capable d'apporter un certain impact sur le match, sur les matchs des Capitals, parce que là, on l'a vu aujourd'hui. Six tentatives de tir au but, aucun qui ont touché le filet ou qui ont. Ils ont alerté Shesterkin. Tu sais, puis on regarde, il n'y a pas tant de profondeur que ça du côté des Capitals.
C'est une équipe qui a vendu aussi.
Ouais. Moi, je veux pas me prononcer trop vite, mais j'ai vraiment l'impression que s'il y a une série qui peut finir en 4 matchs, c'est certainement celle-là. Puis, tu sais, oui, OK, on le voit, c'est un 3 minutes qui a été... Qui a tout changé l'allure du match parce que ça a assommé complètement les Capitals, quoique ils ont été capables de marquer pas longtemps après le but de Jimmy Vesey. Mais encore là, j'ai vraiment l'impression que ces trois buts-là reflètent un peu la tendance qu'il y a eu. J'ai vraiment pas senti les Capitals menaçants tout au long de la partie, alors que du côté des Rangers, j'ai vraiment senti qu'il y avait, même si on avait réussi à avoir un avantage confortable dans la rencontre, j'ai senti qu'il y avait tout le temps comme ce désir de d'apporter toujours un peu plus. Tu sais, il y a eu de la robustesse du côté des Rangers. On le sait, un gars comme Matt Rempe qui va apporter ce qu'on s'attend à ce qu'il apporte. Mais encore plus aujourd'hui, tu sais, un but, il y a eu un élément vraiment important sur le but de Jimmy Vesey où, OK, là, ça peut-être semer la controverse parce qu'on peut dire qu'il frappe un peu Ballenstein au visage là, pendant l'action. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, les boys.
Ouais.
Mais, tu sais, il était quand même sur la glace. Il y a un physique impressionnant qui fait que probablement que ça a un peu gêné Lindgren, parce qu'on l'a vu, Lindgren a vraiment été chancelant aujourd'hui. Je pense qu'au but de Panarin, où il aurait pu faire plus, le but de Vesey, où il semblait vraiment surpris que la rondelle arrive, puis le but de Kreider, je m'excuse, mais c'est une belle feinte de Chris Kreider, mais un gardien ne doit pas se jeter autant sur une feinte. Je pense qu'il va avoir besoin de, je veux dire en anglais, un step-up du côté des Capitals, parce qu'en ce moment, ça peut vite être un balayage, cette série-là.
Ali, ouais. En général, tu as pensé quoi de la performance des Rangers? Bon, on a parlé un peu des déboires des Caps dans le premier match, mais quand même, les Rangers qui est la meilleure équipe en saison régulière et qui a vraiment bien commencé cette série-là en, en l'emportant de façon assez convaincante dans le premier match à domicile.
Ben ouais, mais un peu comme les Hurricanes, je m'attendais un peu à ça du côté des Rangers. Peut-être un peu surpris au début parce que ça, il s'est rien passé en, en première période. Puis j'étais comme, ah, est-ce que c'est une petite ouverture pour les Caps? Mais non, on l'a vu là, dès que la fameuse séquence de 3 minutes là, qu'on parlait où est-ce que tout a chaviré pour les Caps. Mais c'est ça, c'est les Rangers qui montent, qui en quelques actions, quelques instants sont capables de faire chaviner une rencontre en leur faveur. C'est fou, là, tu regardes le but de Panarin. C'est incroyable. C'est Lafrenière qui va faire une solide mise en échec légale dans le coin de la patinoire. Récupère la rondelle en 2 secondes, c'est dans le but avec Trocheck qui remet à Panarin. Puis Lindgren a été faible là-dessus, je suis d'accord, mais quand même, c'est une intelligence dans le jeu de Panarin de décocher ce tir-là rapidement vers les jambières. Puis de ne pas laisser le temps à Lindgren de s'agenouiller. Donc, il y a à la fois Lindgren qui aurait pu faire mieux, mais aussi Panarin qui a été intelligent là-dessus. Puis ce trio-là, Lafrenière, Trocheck, Panarin, c'est eux qu'on ciblait l'an dernier pour les déboires des Rangers en série. C'est eux qui ne produisaient pas. Là, ceux-ci ont tous produit aujourd'hui avec une action, un claquement de doigts, puis c'était dans le but. Donc, on a vu ça tout au long de la saison du côté des Rangers, puis c'est sûr qu'on va manger tout rond les Capitals si ça se poursuit encore. Et je veux revenir sur Matt Rempe parce que faut dire, première période, Rempe qui s'en va faire une mise en échec illégale sur Malenstein et écope d'une pénalité. Là, j'étais comme, bon, voilà, le monde va revenir de Matt Rempe. Et j'ai eu très tort parce qu'il a marqué, puis comme Vincent a dit, a apporté de la fiscalité dans ce match-là. Mais bon, Rempe, c'est un sujet dont on a parlé plus d'une fois. Mais sinon, pour Ovechkin aussi, là, je pense que Greg l'avait mentionné, ou Vince aussi, bref, c'est vrai qu'il faut qu'on réussisse à le mettre dans les bonnes dispositions pour les Capitals pour qu'il soit dangereux parce qu'il n'a pas été aujourd'hui. On a quand même eu 6 avantages numériques là, du côté des Caps. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué de faire mal aux Rangers, mais on en a zéro profité. On n'a même pas été tant dangereux que ça. Je pense que c'est 21 tirs dans le match. C'est clair que si on veut se donner une chance de même pas gagner la série, de gagner un match, il va falloir être beaucoup plus incisif, beaucoup plus dangereux offensivement. Ça va passer entre autres par Ovechkin. Puis il faut souligner le travail de Chris Kreider en infériorité numérique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ne lâchez pas Ovechkin. Ovechkin tentait de se trouver un spot, tentait d'être disponible pour ses coéquipiers. Mais excellent travail de Chris Kreider qui lui aussi là, peut faire un peu de tout sur la patinoire. On a beau le détester là, à Montréal, mais c'est tout un joueur de hockey. Donc voilà, moi je suis d'accord avec ce que les gars ont dit. Je vois très mal comment les Capitals vont pouvoir ne serait-ce gagner un match si ça se continue comme ça.
Mais ce qui me ferait peur, moi, du côté des Capitals, c'est que je pense qu'on peut dire que c'est le quatrième trio qui a un peu donné le ton, qui a un peu fait gagner les Rangers aujourd'hui. Puis on peut pas dire que Shesterkin a nécessairement volé la partie. On peut pas dire que. Parce que tu sais, je pense que Shesterkin, ça va arriver, il va voler une partie. Puis les Panarin, les Kreider, etc. Aujourd'hui, oui, on fait des points, mais je pense que dans le futur, il va avoir des parties parce qu'ils vont faire 4 points. T'sais. Fait que là, que le quatrième trio, qui était un peu un questionnement en rentrant en série pour les Rangers, c'est eux qui ont un peu volé la partie. Ça me fait peur parce que je sais qu'il y a des Shesterkin, il y a un top 6 aussi qui va nécessairement voler une partie ou deux dans le futur. Puis pour revenir sur Lindgren très rapidement, il faut juste se rappeler aussi qu'il y a un Darcy Kemper qui n'est pas au top de sa forme, mais qui est sur le banc et qui a déjà gagné une Coupe Stanley avec Colorado, qui est un autre candidat qui pourrait finir la série pour eux.
Ouais, mais en même temps...
Pour enchérir ce que Greg a dit, c'est vrai, là, les Rangers, oui, là, on s'attend à ce genre de match-là de leur part, mais on a vu seulement qu'une couche de leur potentiel offensif. Là. C'est vrai que des Panarin, des Ibanejad, des Kreider, des Trocheck, des Lafrenière peuvent en donner beaucoup plus que ça. Là. Ça peut se finir beaucoup plus que 4-1 un match de la sorte là, si les Rangers ouvrent les valves encore plus.
Il y a tellement de talent du côté des Rangers. Là. C'est fou. C'est fou à quel point cette équipe-là, cette offensive-là, parce que oui, ils sont très forts à la défensive, mais quand on pense aux Rangers, on pense à leur force offensive, puis c'est fou à quel point ils sont bourrés de talent. Là. J'ai hâte de voir à quel point les Capitals vont être capables de museler cette attaque-là, parce que ça peut marquer de n'importe quel attaquant.
C'est sûr. Puis du côté de Washington, si, ben, moi, je ne suis pas vraiment surpris du dénouement du premier match. T'sais, si on regarde la formation des Capitals en général, déjà comment ils sont rentrés à ces séries éliminatoires, tu te retrouves avec un des pires différentiels pour une équipe qualifiée dans l'histoire de l'NCAA de hockey, à moins 37. Tu as Charlie Lindgren, bon, qu'on a un peu critiqué pour ce match-là, mais qui est la principale raison pourquoi les Capitals s'est qualifié. On parle quand même d'une équipe qui, dans les deux derniers matchs d'Aston Aguilar, a eu la chance de jouer contre Boston, qui, j'ai l'impression, puis ça, c'est pour ça que ça, c'est peut-être mon côté fan des Penguins de Pittsburgh qui est encore fâché, là, mais le fait que Boston, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de mal jouer cette rencontre-là pour affronter les Leafs, et ben, c'était terrible. Si tu regardes le nombre de tirs, ça n'a aucun sens. Bref, puis le dernier, puis aussi se qualifier sur un filet désert, bref, c'est pas... c'est pas une équipe extraordinaire. Puis pour moi, j'ai vraiment l'impression que si Washington ne marque pas plus de deux buts dans un match, s'il ne marque pas plus de deux buts par match, ils vont perdre la série en quatre matchs, ce ne sera même pas proche. Je suis désolé, mais il ne peut pas juste miser sur Charlie Lindgren qui vole des matchs. Je pense que l'enjeu est beaucoup trop grand pour que Lindgren soit en mode sauveur, un peu comme à Lac l'était. En 2010, par exemple, au Canadien de Montréal. Je pense que c'est impossible. Bref.
Puis 21 tirs, c'est pas assez, là. C'est pas assez du tout, là.
Non. C'est ça. Mais en même temps, on va parler dans le prochain match, celui de Winnipeg, là. Mais des fois, 24 tirs, c'en est assez.
Ouais. C'est juste que c'est Shesterkin et non son ancien
Gorgiev.
Mais écoutez, les gars, je pense que je me souhaite une propre passe sur le tape pour aller.
Ouais, c'est une excellente transition.
On va parler du fameux match, le match le plus excitant à date là, des séries éliminatoires, malgré que ça fait juste deux jours que c'est commencé. Le premier match de la série entre les Jets de Winnipeg et l'Avalanche Colorado du côté Winnipeg. Une victoire assez spectaculaire des Jets de 7-6. Dans un match où que les gardiens de but vont pas passer à l'histoire, malgré que Connor LeBoc a quand même eu 46 tirs là, dans cette rencontre-là, donc il a vraiment été bombardé par l'Avalanche, mais je ne vais pas revenir sur les marqueurs parce que je vais marquer tant encore une fois, mais je vais commencer avec toi, Oli. On vient d'un peu d'effleurer le sujet, là, mais peux-tu nous parler de la performance d'Alexander Georgiev dans cette rencontre-là? Parce que quand même, là, c'est 7 buts sur 23 tirs. Là.
Ben, c'est pas compliqué. Là. Tu regardes le but de Namestnikov, c'est lui qui fait une mauvaise remise. Tu regardes le premier but de Josh Morrissey, c'est lui qui aurait tout simplement dû attraper cette rondelle-là. Je pense que moi, dans la rue, là, j'ai quand même des bons attrapés. Je pense que j'aurais pu l'avoir. T'as d'autres buts là, qui ont été problématiques. Le but de Laurie entre les jambes. C'est un tir que tu dois arrêter. Là. Je suis désolé, Alexander. Là, mais après ça, il y a des buts dans le match plus tard qui n'ont pas été nécessairement de sa faute. Ça a été des beaux jeux des Jets. Mais c'est parce que ça t'a fait extrêmement mal en début de match. Là. Ça aurait pu être Colorado qui aurait eu 2 ou 3-0 d'avance. On était à 3-3 à la fin de la première période à la place. Donc, ça, c'est parce que faut le dire, Colorado a commencé en force. Je pense que c'était 11-1 à un certain moment, les tirs au but. Donc, si c'était pas de ces erreurs-là de Georgiev, on aurait eu une belle avance côté de Colorado. Et ça n'a pas été le cas, puisque, voilà, les largesses de Georgiev. Donc, on en a parlé. C'était inévitable qu'on allait en parler. Mais là, Anunen était malade dans ce match-là. S'il est en santé pour le match numéro 2, je pense que c'est clair et certain que tu dois tout de suite changer le momentum devant les filets puis aller avec lui. Mais même Anunen, c'est pas un nom qui est rassurant. Tu fais pas « Oh mon Dieu, une chance qu'on a Anunen ». Fait que c'est sûr que ça fait très peur du côté de l'Avalanche, la situation des gardiens de but. Soit on mise sur Anunen, soit il faut que Georgiev retrouve ses repères et au plus vite. Parce que voilà, c'est ça. Mais quel match! Si on laisse de côté Georgiev, quel match! Les Jets vraiment m'ont impressionné. Aussi, félicitations aux partisans des Jets. Là. C'est un des plus petits marchés dans la Ligue nationale de hockey. Winnipeg, je pense que c'est la ville qui a le moins de population en termes de nombre. Et d'être aussi intense dans les gradins, dehors aussi, tout le monde en blanc. C'est vraiment impressionnant comme base partisane, les Jets de Winnipeg. le fait que ce soit au Canada, c'est sûr que ça l'aide. Donc, félicitations pour ça. Puis, quel match ils ont eu le droit. Les Jets, formation très profonde. Adam Laurie, qui, quel match de sa part aussi, a muselé McKinnon. Ben, on l'a pas tant muselé que cela, mais a quand même fait un bon travail contre lui. Et a surtout été capable de marquer des buts alors qu'il jouait contre le trio à McKinnon. Deux buts. Kyle Connor, bon match aussi. Puis l'Avalanche, ils ont montré que même si leur gardien est pourri, ils peuvent revenir dans un match. Et ils sont souvent revenus dans un match cette saison-là. Et voilà, c'est Avalanche-Jets, là, toute une confrontation. Puis ça va se jouer devant les buts de l'Avalanche. Cette série-là, c'est aussi simple que ça, tant qu'à moi. Mm-hmm.
Greg, quand même, Ali vient d'en parler, là, mais l'Avalanche a marqué quand même 6 buts sur Connor Lebuck, qui est le meilleur gardien but de son Dynasty de hockey cette saison. Bon, à part de Georgiev, là, est-ce que tu es d'avis que l'Avalanche peut revenir dans cette série-là puis même quand même donner toute une opposition aux Jets? Là?
Je pense que cette série-là va se finir en 6 ou en 7. Je pense que c'est deux des meilleures équipes de la Ligue, vraiment. Deux équipes qui sont bâties pour les séries qui s'affrontent. Puis tu sais, on en a parlé, mais ça va vraiment être le gardien qui va définir un peu comment, de quel côté cette série-là va pencher. Je pense qu'on est plus surpris de voir Hellebuck allouer 6 buts que de voir Georgiev allouer 7, parce que tu regardes ses dernières parties. En rentrant en série, tout le monde était au courant que ce gardien-là n'était pas en confiance. Je pense qu'il a été enlevé des parties, je pense, dans 2 de ses 4 dernières. Il a alloué 4 buts dans comme 8 de ses 10 dernières parties. C'est pas un gardien qui est en confiance. Puis même si on regarde les 7 buts qu'il a loués, c'est incroyable à louer 7 buts sur 23 lancés, surtout en séries éliminatoires. Si on regarde les 7 buts, il n'y a pas un but nécessairement que tu te dis « Wow, ce but-là était désastreux. » Tu sais, l'Avalanche gagne cette partie-là 6 à 2. Tu gardes n'importe quel des 2 buts, puis tu te dis « Tu sais, OK, c'est des buts qui arrivent. » Mais là, c'est le volume à louer 7 buts. Puis tu sais, il n'y a pas un but non plus. Tu sais, sans que aucun de ces buts-là soit désastreux. Il n'y a pas aucun de ces buts-là que tu sais, il fait l'arrêt, puis tu te dis, wow, c'est le jeu de la semaine. C'est un but certain qui vient d'arrêter. C'est tous des buts qui étaient arrêtables. Puis en série, tu as besoin d'un arrêt de temps en temps. Puis Georgiev a fourni aucun arrêt important. Hellebuck a loué 6 buts. Il a quand même fait face à 40 quelques lancés. Il a fait une coupe d'arrêt qui a quand même donné du momentum. Même si, tu sais, il a loué 6 buts. Georgiev n'a rien donné, n'a jamais été en mesure de donner juste un peu de momentum à son équipe. Puis, je pense que ça va être intéressant de voir qui va être le partant en partie numéro 2. Parce que là, on sait que Hanunen était malade.
Est-ce qu'il va l'être encore? Ouais,
c'est ça. Est-ce qu'il va l'être encore? Puis, de deuxièmement, même s'il est en santé, Bednar a vraiment l'air à dire que Georgiev est son partant. Puis là, tu te dis. Tu sais, mettons qu'Hanunen est encore sur la touche et il n'est pas disponible. C'est vraiment là qu'on va voir de quoi Georgiev, qu'est-ce que Georgiev a vraiment dans le ventre, parce que tu te dis, OK, c'est la partie qui va définir ma carrière un peu, là, parce que tu joues mal, tu perds ta position de numéro 1, c'est sûr et certain. Tu joues une autre partie de la sorte, c'est sûr et certain que tu n'es pas devant les poteaux. Je m'en fous si c'est le troisième gardien de la Ligue américaine. C'est sûr que tu ne reviens pas devant le filet dans cette série-là. Tu perds ta position numéro 1. Fait que je serais quand même intéressé de voir s'il serait en mesure de répondre, mais je suis loin d'être confiant qu'il serait en mesure de le faire. Mais ça va être intéressant de voir ça va être qui devant les poteaux.
Moi, je ne vais pas m'acharner sur Georgiev, mais...
Voilà, c'est fait, j'avoue.
Mais je pense que je vais le faire quand même. Ce qui m'a choqué de sa performance, c'est son attitude.
Ouais.
Je pense que c'est le but
de Schifflé
où il fait un déplacement sur la gauche, puis il se fait prendre sur ce déplacement-là. Et directement, quand il a su que la rondelle était rentrée, il a levé la tête en signe de désespoir total. Ouais. Ça m'a scié les deux jambes. J'en revenais pas qu'il était capable de sortir de son match autant puis d'avoir des réactions de la sorte. Je sais pas ce qui...
Je vais te laisser continuer, là, mais j'ai une anecdote par rapport à ça. Là, parce que je suis allé voir un match justement du Colorado au Colorado plutôt cette année pour voir mon joueur préféré, Josh Manson. évolué. Puis finalement.
Ouais,
c'est ça. Josh Manson. Ouais, Josh
Manson. Il joue une sacrée partie en passant ce soir. Oui. Josh Manson n'est surtout pas responsable de comme 3 buts. En tout cas, puis justement, cette partie-là, Georgiev, après avoir alloué, je pense que c'était son 4e but sur 9 lancés, lancé une rondelle dans les estrades après justement avoir alloué ce but-là. Il a failli me frapper avec la rondelle. Puis, tu sais, le regard que ses joueurs lui ont donné, tu sais, juste parce que quand ton gardien est autant sorti de la partie, quand il se sort autant facilement lui-même de la partie, en ayant une mauvaise attitude, ayant, tu sais, être juste, on dirait, un mauvais perdant, un petit peu une attitude de bébé, ça n'aide personne, surtout pas lui, puis non plus ses coéquipiers. Fait que tu vas te laisser, Vincent.
Ouais, c'est ça. J'aime que tu aies apporté cette anecdote-là parce qu'on dirait que ça se voit que son équipe, il n'y a pas le soutien de son équipe, on dirait. On dirait que son équipe s'attend à ce qu'il fasse des performances de la sorte. Comme, je m'excuse, mais le premier but, là, le but de Josh Morrissey, il est tellement petit dans son filet. On dirait la rondelle passe à côté de sa mitaine, puis le tir est au milieu du filet. Genre, je comprends pas comment il est pas capable d'être gros dans son filet. Oui, c'est un gardien d'un petit peu de plus petite taille, mais il démontre pas de la confiance dans son jeu. Puis je pense que c'est ça qui peut avantager. C'est le seul élément, je crois, qui peut avantager les Jets. C'est pas un gardien qui prospère la confiance devant son
demi-cercle. Non, vraiment pas, vraiment pas.
Non, effectivement. Et moi, une autre anecdote, j'ai vu notre bon ami Georgiev au Centre Bell en janvier et il s'est fait...
Ah oui, toi aussi?
Ouais, il s'est fait dominer par Jacques Alain. Donc,
ouais, Jacques Alain qui est ton joueur préféré, d'où, c'est ça?
Ouais, puis on parle de Jake Allen qui n'était pas en confiance à ce moment-là non plus. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'était pas extraordinaire. Toi aussi, t'étais là en game, Greg?
Ouais, je pense qu'avec Jake Allen, les Penguins vont les séries en passant.
Non, ça c'est. Ah, c'est pas la faute de Nedeljkovic. C'est pas la faute de Nedeljkovic. Les Penguins n'ont pas fait des séries, ok? Bref, on va pas revenir sur ce sujet-là. Mais franchement, écoutez, honnêtement, l'Avalanche, dans l'ensemble, n'a pas joué un si mauvais match que ça. Là. Pour vrai, c'était vraiment.
Mais non.
Pour moi, ça s'annonce une série absolument extraordinaire.
L'Avalanche a été la meilleure équipe de loin.
Ouais, pour vrai, de loin.
J'ai l'impression qu'on rejoue ce match-là. 9 fois sur 10, l'Avalanche est capable de remporter. C'est des détails, puis on a hâte de voir comment ils vont être capables de ressortir de ce match-là, parce que ça doit vraiment, vraiment être difficile pour l'Avalanche. Tu es capable de marquer 6 buts contre Hellebuyck, qui est probablement
le gardien. Ils vont peut-être pas faire ça de la série, là. Marquer 6 buts, là, peut-être c'est quelque chose qu'ils vont pas être en mesure de faire. Si c'est pas pour blâmer les Colorado, là. S'ils le refont pas, ça va pas être comme catastrophique. Là. Marquer 6 buts contre Hellebuyck, c'est pas quelque chose que tu fais juste comme un marché dans le parc. Là. C'est, marquer 6 buts contre Hellebuyck, c'est un exploit en tant que tel. Puis avoir perdu cette partie-là, c'est une claque au visage.
Là. 100%. Tu es capable de marquer 6 buts contre le potentiel gardien Vezina cette saison, j'ai de la difficulté à voir comment ils vont être capables de fournir une performance de la sorte encore.
Exact. Ouais. Et en tant que partisan, on est-tu chanceux de voir ça en match numéro 1, un match qui a 13 buts, alors que c'est censé être du hockey fermé, tout le monde est prudent défensivement. Quand tu as 13 buts, ça montre comment la Ligue nationale évolue. Puis, ouais. Ben, moi, j'aime ça, les festivals offensifs. C'est pour un partisan de hockey, c'est salivant.
Oui, effectivement, tu n'as pas vraiment dit ça, Ali. Puis en plus, avec une belle foule comme celle de Winnipeg dans cette rencontre-là, il n'y a rien de mieux. Là, donc, voilà, le reste de cette série-là s'annonce spectaculaire. Comme notre bon ami Vincent Tardif avait mentionné un peu plus tôt, c'est vrai que ça donne un peu une saveur du premier match dans la série entre les Oilers et les Flames il y a 2 ans. Là, où le match était terminé, je pense que c'était 9 à 6, quelque chose comme ça. Donc, puis cette série-là avait été spectaculaire. Donc, ça risque d'être peut-être, en ce que je l'espère, soit une série un peu similaire à la bataille de l'Alberta. Donc, on verra pour la suite des choses dans cette série-là. Mais l'Avalanche est loin d'être battue. Moi, je ne crois pas une seconde que l'Avalanche va s'écrouler à cause d'une histoire de Georgiev qui a joué un mauvais match. Je ne peux pas croire ça. Là. Surtout quand tu as des gros canons qui ont joué un excellent match, que ce soit McKinnon, Makar, le bon Arthur Lekkonen qui a encore une fois été excellent à cette rencontre-là. Nishkin, a été très bon. Donc, Je m'attends à ce que l'Avalanche soit en mesure de gagner même le prochain match. Donc, je ne suis pas inquiet.
Non, ils ne sont vraiment pas battus. Là, vraiment pas.
Comme Greg
c'est beaucoup moins inquiétant que les Leafs.
Cette série-là, ça finit en 6 ou 7 matchs.
Oh, je suis
quasiment persuadé que ça va être des matchs aussi enlevant qu'on a pu vivre ce soir pour le restant de la
saison. Oui. Puis honnêtement, même s'ils perdent le prochain match, là, on parle souvent de vouloir splitter les matchs en la route là, 1-1. Mais l'Avalanche est tellement bonne à la maison. Là, j'ai l'impression vraiment qu'ils sont imbattables à la maison. Là. Tu regardes, je pense que McKinnon a fait genre, comme 90 points en 40 parties cette saison à la maison. C'est des statistiques comme ça pour quasiment toutes les... Ben, pas tous les joueurs, mais je veux dire, la majorité des points de tous les joueurs se sont faits là. C'est une équipe qui est inarrêtable à la maison. Fait que c'est sûr, ça fait mal de ne pas avoir le match numéro 7 à la maison, puisqu'ils ont perdu le match crucial 7-0. Le bon match de gardien aussi. Mais, tu sais, je suis pas stressé sur l'Avalanche encore là, loin de là.
Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le prochain match va avoir lieu, je crois, mardi, si je ne me trompe pas. Du côté encore une fois de Winnipeg. En tout cas, moi, j'ai super hâte pour la suite des choses, mais on a le droit à un match spectaculaire. Puis j'espère en voir d'autres, tu sais, pas juste cette série-là, mais dans d'autres séries, que ce soit dans l'Est ou dans l'Ouest, pour la suite des séries éliminatoires. Bon, les gars, on va analyser rapidement le dernier match de dimanche, celui entre les Canucks de Vancouver et les Predators de Nashville, du côté du Rogers Arena. Victoire de 4-2. Des Canucks de Vancouver dans un match où que Dakota Joshua a été le héros là, en marquant le but de la victoire et aussi ben, a fait deux buts dont le dernier but aussi dans le filet désert. Vincent, qu'est-ce que tu as pensé en général de ce match-là? Puis je viens de mentionner Dakota Joshua qui a été excellent dans cette rencontre-là, qui a été le héros. Là.
Ben ouais, puis tu sais, on peut jeter des fleurs à Dakota Joshua, tu l'as dit, deux buts, mais aussi une passe sur le but d'Elias Lindholm. C'est lui qui va chercher la rondelle en échec avant pour Lindholm. Incroyable travail. Mais je pense que c'est ça qui a permis aux Canucks de sortir de ce match-là qui semblait un match un peu compliqué pour les Canucks au début. Mm-hmm. Je pense, j'ai dans la tête, oui, le but de Jason Zucker, mais en plus de ça, je pense en première période, vers la moitié de la première période, un incroyable arrêt de la part de Tatsunobu qui fait un déplacement miraculeux, qui est capable de la sauver avec sa jambière. Ça a mal débuté du côté des Canucks, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le troisième trio, tu sais, Lindholm, Joshua et... Je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, honnêtement, j'ai trouvé ça incroyable de voir que c'est des joueurs de l'ombre un peu plus. T'sais, Lindholm, je dirais pas que c'est un joueur de l'ombre parce qu'on est allé le chercher à la date limite des transactions, mm-hmm. puis on est allé le chercher pour des performances de la sorte, mais c'est des joueurs de rôle qui sont capables d'apporter ce que leur entraîneur leur demande. Puis moi, si je suis partisan des Canucks présentement, je ne peux que festoyer parce que j'ai l'impression que cette équipe-là s'est forgé un ADN cette saison. C'est une équipe incroyablement puissante. Puis j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur. Je vois difficilement les prédateurs être capables de, je sais pas, d'avoir le dessus sur ce. En cette match, sur cet affrontement-là.
Mm-hmm. Ben, malgré que moi, Greg et Oli, les trois, on a pris les Predators pour gagner cette série-là. Je suis encore confiant pour cette série-là, personnellement.
Oui, mais c'est ça, mais quand Vince en parlait, là, moi, j'ai trouvé justement qu'en début de match, les Predators étaient capables de. J'imagine avec leur expérience de museler un peu les Canucks. Ça a pris du temps avant qu'ils se mettent en marche. Puis quand les Predators ont même pris les devants 2-1, je me suis dit, ah, ça y est, je pense que j'ai bien fait d'avoir ma prédiction. Mais c'est Dakota Joshua, comme on l'a dit, deux buts en en 12 secondes. Greg parlait de Josh Manson comme étant son joueur préféré. Dakota Joshua, c'est mon joueur préféré, je pense que vous le savez. Donc, non, mais sans blague, grosse saison de Joshua cette saison. Là, c'est un gros bonhomme, puis il a eu sa part de points cette année. Puis là, il montre qu'il peut vraiment être utile, puis c'est un joueur qui est fait pour les séries. Donc, vraiment, les Canucks qui ont montré leur force de caractère. Ouais, Greg.
Je sais pas si tu te rappelles, si vous avez écouté ces parties-là en 2022 du Rocket en série, mais il était à l'époque avec le club école de Saint-Louis, des Blues de Saint-Louis. Puis il était incroyable contre le Rocket. Là, je me rappelle, j'étais en maudit dans ma télé parce que ce gars-là, il était incroyable. T'sais, on parlait d'un peu de Matthew Tkachuk, qui je disais que c'était un joueur taillé en sur mesure pour les séries. T'sais, c'est pas au même niveau, c'est pas comparable, mais en termes de qu'est-ce qu'il apporte à plus bas niveau, aujourd'hui, c'est quand même une très bonne production, là, c'est deux bonnes passes. Mm-hmm. Je veux dire, qu'est-ce qu'il apporte en termes de sur le jeu, sur le côté physique, sur le côté finir ses mises en échec, aller dans les espaces plus difficiles de ça exactement. C'est un joueur que tu veux. Puis tu sais, on parlait de peut-être que le noyau des Canucks, il manque d'expérience en série. Il y en a qui disaient qu'il était un peu soft. Si tu regardes des Patterson, des Hughes, c'est pas les joueurs nécessairement qui vont aller faire la grosse mise en échec en plein milieu de la zone, en plein milieu de la patinoire. Mais un Joshua, ça amène sa part de jeu physique, ça amène quelque chose un peu qui manque à ce noyau-là. Puis je pense que c'est un très bon mix de joueurs.
Mm-hmm. Moi, j'ai une question pour vous. Là. Je vais prendre ta job d'animateur, Dou. Est-ce que vous avez, selon vous, est-ce que le but de Ryan O'Reilly était bon? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'Evangelista frappe la mitaine de Demko, puis ça vient interférer dans sa tentative d'arrêter. Puis je comprends pas pourquoi ils ont pas été à la reprise.
Ben moi, j'ai eu le même questionnement que toi, Vince, et j'ai l'impression que la mitaine de Demko n'était même pas sur la trajectoire de la rondelle, donc je pense qu'il aurait bu, peu importe. Et je pense aussi que le coup est arrivé alors que la rondelle était déjà un peu derrière la mitaine. Donc je pense que ça n'a pas eu de conséquence sur le but. Il faudrait peut-être que je revoie la reprise pour être sûr de ce que je dis, là, mais quand je l'ai vu la reprise, c'est ça que j'ai eu en tête. Là.
Mais je pense que c'était pas mal instantané. Puis les arbitres, je comprends, sur le fait, ils n'ont pas remarqué, ils n'ont pas vu la séquence. Mais tu regardes Demko directement qui regarde au banc pour dire à ses entraîneurs peut-être de regarder ça. Puis je pense que c'était juste un moment, la partie, c'est 2 à 1. Je pense que c'est juste que les Canucks ne voulaient pas nécessairement prendre la chance parce que, on le sait, il n'y a pas vraiment de paramètres fixes pour les buts avec l'obstruction sur le gardien. Tu donnes la chance d'aller en contestation, tu donnes la chance aux prédateurs de possiblement non seulement garder le but, mais aussi d'aller en supériorité numérique. C'est peut-être une chance qu'ils ne voulaient pas prendre à ce moment-là dans la partie. Je pense que c'est peut-être pour ceux qu'on n'a pas donné, on n'a pas amené de challenge.
Exact, surtout si tu n'es pas sûr d'avoir raison. C'est,
mais... Pour les buts avec l'obstruction sur le gardien, c'est tout le temps très, très dangereux.
Ouais, exactement. Puis surtout aussi, il faut se dire que souvent, là, quand la décision est tellement serrée, c'est difficile pour un arbitre de retourner sa décision puis de la changer. C'était honnêtement, quand je viens de regarder la séquence, c'est tellement serré que pour elle, ça aurait pris un miracle pour que les Canucks gagnent cette cause-là. Donc, comme Greg Pioli l'ont si bien expliqué, je pense que les Canucks avaient pris une bonne décision de ne pas aller contester pour ça parce que honnêtement, se retrouver à après ça, non seulement perdre cette cause-là, mais en plus se retrouver à désavantage numérique. Puis peut-être que les Prédateurs auraient pu marquer dans cette séquence-là puis avoir une avance de 3-1. Là, ça aurait pu faire mal, mais heureusement pour les Canucks, c'est juste une question d'un but, puis ils ont réussi à revenir dans le match puis l'apporter.
Puis en même temps, je comprends Demko, parce que lui, il sent qu'il a été gêné, puis c'est un scénario complètement différent si la partie se finit 2-1, parce que là, tu te dis, moi, ça a été le but gagnant, est-ce que ça aurait changé, ça aurait peut-être pu changer quelque chose, mais là, ça va passer un peu plus crème à cause que les Canucks ont été en mesure de remporter.
Exact, puis ils ont bien fait parce que peut-être que si, mettons, Nashville avait eu un avantage numérique sur cette décision-là, ça aurait complètement changé le match. Donc, au final, je pense que autant les Canucks que l'arbitre, je ne sais pas s'il a pris la bonne décision, mais autant les Canucks, eux, l'ont pris, je pense.
Ouais, mais c'est vrai que c'était quand même une séquence assez intéressante. Puis, tu sais, aussi, t'as Jay Demko, on n'en a pas parlé, mais quand même, en général, un match. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de tirs, vous allez me dire, là, mais dans l'ensemble, il n'a pas connu un mauvais match.
Ouais, mais c'était un peu un match plate, là, on va se le dire. Là, mais...
C'était très fermé comme match. Ouais. J'ai eu l'impression, là, on était peut-être sur un nuage avec celui juste avant, mais ouais, j'ai l'impression que celui-là, c'était comme aux antipodes complets de ce qu'on venait juste de vivre. Là, 6 tirs à 4 après la première période, 12 tirs à 14 après la deuxième, c'était le contraire de ce qu'on venait juste de vivre.
Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, Vincent, là-dessus. Puis quand même, moi, honnêtement, je suis encore confiant avec Nashville qui peut gagner cette série-là. Je crois que, pour vrai, si c'était pas une question de détails et tout, peut-être que Nashville aura plus à sortir dans cette rencontre-là. Greg, il a l'air moins sûr. Là. Pourtant, il était persuadé là, samedi. Là, il était comme...
Ouais, moi, non, pas persuadé. Je dirais pas que j'étais persuadé. En plus, j'ai changé ce choix-là à la dernière seconde. Mais...
Quoi?
J'ai changé ce choix-là à la dernière seconde. J'avais les Canucks au départ, mais là, finalement, je me suis dit, non, en tout cas, c'est pas fini, c'est juste une partie. Là, mais je dirais pas que je suis confiant. Quand j'ai envoyé mon bracket, je me rappelle très bien d'avoir dit que j'étais loin d'être confiant de mes choix. Mais bon, c'est juste un match. Les équipes à la maison, en pensant aussi, ont gagné leur premier match jusqu'à maintenant. Fait que peut-être que ça va changer une fois qu'on va retourner dans l'autre ville.
Est-ce que tu étais plus confiant que Gorgiev?
Ça ne va pas être difficile. Ça va pas être difficile
en ce moment. Mais non, mais si tu étais plus confiant que Gorgiev, c'est déjà bien. Là, parce que Gorgiev,
tu penses que ça ne va pas être difficile en ce moment. Pauvre Alexander.
C'est pas facile du tout, cette situation. Mais regarde, qu'est-ce que vous voulez, hein? Les Canadiens pouvaient offrir un gardien de but à la vache Canada, puis ils ont décidé de ne pas prendre cette décision-là. Donc,
voilà. Ils ont manqué leur chance, je pense.
Ah oui. On aurait pu voir Jake Allen au Colorado au lieu d'analyser les matchs à Sportsnet. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Hein. C'est le Colorado qui a décidé ça. Peut-être qu'ils vont perdre la série à cause de ça. Hein.
On va peut-être obtenir un choix de deuxième ronde l'année prochaine à voir. Mm-hmm. Je pense pas qu'on aurait eu un choix de deuxième ronde avec Jake Allen qui joue, je pense c'est quoi, 45 games?
Ouais, mais enfin, je pense qu'il faut que les Devils fassent les séries aussi.
Mais l'an prochain, peut-être.
À voir.
Il faut qu'ils fassent les séries l'an prochain ou il fallait qu'ils fassent cette année?
Ouais, l'an prochain.
Mais c'est pas impossible parce que, dis-toi qu'à ce
moment-là... Il faut qu'ils fassent les séries l'an prochain en ayant Jake Allen devant les filets pendant 40 parties. Ça, c'est...
Durant la saison régulière, ouais, c'est ça. Ça, c'est...
Un peu plus.
C'est ça.
Ouais. Mais écoute, de toute façon, du côté des Devils, l'année passée, ils ont fait des séries, ils ont fait une ronde alors qu'ils n'avaient pas de gardien de but.
C'est vrai?
Je pense que c'est possible. Il y avait Doug Hamilton qui n'a presque pas joué cette année, donc c'est pas impossible. En tout cas, bref, ça c'est...
On est rendu très hors sujet.
Bon, messieurs, sur ce, il y a 4 matchs qui vont avoir lieu lundi. Là. Les matchs numéro 2 dans les séries entre les Leafs et les Bruins et également dans la série entre les Islanders et les Hurricanes de Caroline. Puis, on va droit aussi au dernier premier match dans l'association de l'Ouest. Premier match entre les Stars de Dallas et les Golden Knights du côté de Dallas et également aussi du côté de d'Edmonton. Donc, on va voir l'équipe à Vincent qui, pas toi Vincent Poirier, mais Vincent Tardif, qui affrontera l'équipe de Los Angeles encore une fois pour la troisième année consécutive. Pour vrai, je commence à être tanné de voir cet affrontement-là.
Je pense les Kings aussi.
J'aurais tellement aimé voir les Golden Knights contre les Oilers. Ça a été spectaculaire, mais bref. Mm-hmm. Peut-être que ça va arriver en deuxième ronde. Peut-être que ça va arriver l'année prochaine. Ou dans une
autre. Mais si ça arrive, ça va être en troisième ronde.
Ah, ce ne sera pas en deuxième ronde? Ah oui, c'est vrai, non. Vu qu'il y a Vegas, c'est vrai. Oui, t'as raison.
Ouais, c'est quoi ce soir-là? Stars, Golden Knights, Jets, Avalanche. Là, c'est peu importe qui gagne, ça va être difficile de sortir de là. Puis voilà.
Ouais, mais ouais, peut-être que les Oilers ont peut-être on verra dans
les Oilers ont peut-être le passage le plus facile vers la troisième ligne. C'est pas facile, il n'y a jamais rien de facile, mais les Kings, puis après ça, le gagnant de Nashville, Vancouver.
Mm-hmm. Puis après ça, jouer contre, mettons, les Stars ou l'Avalanche qui va être facile.
Qui viennent de se taper deux très bonnes équipes.
Exact. Fait que, pour vrai, je pense que le parcours est assez ouvert pour.
Quoique, ne pas sous-estimer Vancouver là-dedans.
Non, ni aller.
Ni n'importe quelle équipe, tu regardes, là, n'importe quelle. En tout cas, commence à être tard, le
Ouais, il commence à être le temps de closer ça. Là.
Messieurs, sur ça, ça a été un grand plaisir d'avoir fait cet épisode-là. Puis on se trouve pas plus tard que demain là, pour parler des 4 autres matchs qui vont avoir lieu lundi. Donc, ça a été un grand plaisir. Puis au nom de toute l'équipe, je suis Dwight Ibrahim et on se revoit demain pour un autre épisode de Première Loge. Salut tout le monde.